Depuis quelques semaines, comme vous le savez, nous avons commencé cette série sur le sermon sur la montagne. Et dans cette série, nous voulons apprendre à découvrir ce qu'est, quelle est l'identité, quelle est la mentalité, quelle est la façon de penser, quelle est la façon de fonctionner du citoyen du royaume. Alors, juste quelques secondes. Du citoyen du royaume. Et ô combien cela est important. Nous venons au culte ici le dimanche. Mais nous avons besoin de... Vous savez, des fois, dans certains appareils, on a besoin de faire un petit reset, de mettre un petit retour à zéro pour pouvoir, bien fonctionner. Sinon, il n'y a que des bugs. Et c'est exactement ce que nous faisons avec le sermon sur la montagne. Et nous avons besoin de comprendre quelles sont les lois du royaume pour que nous puissions les appliquer dans nos vies. Mais vous savez, le sermon sur la montagne n'est applicable que pour celui qui a fait le choix d'appartenir à Christ. Autrement, c'est beaucoup de principes et tu ne peux les appliquer dans ta vie si le Saint-Esprit n'habite en toi. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu ne peux appliquer le sermon sur la montagne. Parce que les exigences sont élevées. C'est les exigences du royaume de Dieu. Amen. Et je prie que nous puissions nous laisser pénétrer par chacune de ces exigences-là. Parce que... Jésus qui arrive, vous savez ça? Et faut que ça vous côté nouillé et puis bon Dieu. Faut pas nous faire la fête et puis bon Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La semaine dernière, j'étais donc à l'assemblée de l'Union chrétienne, un culte béni. On remercie le Seigneur. Et une des choses que j'ai pu partager autour de la maturité, c'est que comment les personnes qui ne nous... Ça ne fait pas partie du message d'aujourd'hui, mais je vais essayer de réduire ce que je dis. Mais comment ceux qui nous regardent, c'est-à-dire ceux qui regardent les chrétiens, et peut-être les chrétiens évangéliques, quel regard ont-ils sur nous? J'espère que leur regard... est un regard de dire ces personnes-là sont des personnes qui aiment, j'espère. Mais souvent le regard qu'ils ont sur nous, c'est un regard de personnes qui jugent. Parce que nous ne savons pas exprimer l'amour dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude, alors que nous sommes censés l'avoir reçu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors que nous nous laissons pénétrer par ce message, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de méditation cette semaine, mais vous les aurez les semaines qui viennent et vous aurez les 21 méditations, rassurez-vous. Le temps qu'on ait fini, j'avais prévu 2 mois pour le sermon sur la montagne, mais sans prêcher sur tous les passages, je pense qu'on fera plus de 2 mois. On va réserver Noël hein, pour parler de la naissance de notre Sauveur, n'est-ce pas? Mais... je crois qu'on va étendre. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui participent, pour tous ceux qui participeront d'une manière ou d'une autre à l'enseignement autour de ce sermon sur la montagne. Est-ce qu'on peut montrer l'image aujourd'hui? J'ai une petite histoire à vous raconter avant d'arriver au thème. Et nous sommes juste en train de suivre le sermon sur la montagne. Merci beaucoup, Jessica. Voilà. Alors j'ai une petite histoire, c'est un couple de personnes d'un certain âge, on va dire âgé, n'est-ce pas, qui est allongé dans son lit. Et madame n'est pas très satisfaite de la distance qu'il y a entre eux sur le lit. Et elle rappelle gentiment à son époux, « Doudou, tu te rappelles quand on était jeune ?» Tu me tenais la main dans le lit. Marie hésite un peu, mais après quelques instants, sa main ridée se rapproche de celle de son épouse et la saisit. Mais elle n'est pas encore satisfaite. Et elle continue. Elle dit, Tu te rappelles quand nous étions jeunes et tu me faisais des câlins? Il hésite, mais là encore, finalement, avec quelques soupirs, il se retourne et enlace son épouse. Mais là encore, elle n'est pas encore satisfaite. Et elle dit, Doudou, tu te rappelles quand nous étions jeunes et tu me mordillais l'oreille? Et là, il y a un soupir encore plus fort du mari. Il met de côté les couvertures et il sort du lit. Et là, l'épouse se sent quelque peu blessée. Elle dit, mais où tu vas? Le mari qui dit, ben, je vais chercher mon dentier. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème qui est dans le sermon sur la montagne. Il s'agit bel et bien de la sexualité. Et nous allons parler de la sexualité du citoyen du royaume. Parce que Jésus aussi aborde cette thématique dans le sermon sur la montagne. Et j'aimerais dire qu'en ce matin, cela nous concerne tous. Les ados, les jeunes, les célibataires, les veufs, les divorcés, les mariés et même les mariés de longue date. N'est-ce pas? Comme notre cher couple ce matin. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Matthieu chapitre 5. C'est bon, vous l'avez? Je dis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour moi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Oui, il faut continuer alors. Peut-être, soit me donner le texte. Et là, voilà, merci beaucoup Jessica. Alors je relis le verset 28. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille dans la géhenne. Vous prenez la géhenne comme étant l'enfer. Seigneur, merci parce que tu veux nous parler encore, Père éternel, à travers le sermon sur la montagne, et tu veux nous parler de sexualité ce matin. Que tu puisses nous éclairer, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge aussi, et que tu puisses nous parler ce matin et nous aider à progresser encore dans tes voies, dans ce thème, dans cette réalité, dans ce domaine de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce chapitre, le chapitre 5, que nous avons déjà pu partager un temps en méditation, en prédication, et vous savez que nous avons pris le temps d'analyser plusieurs, merci beaucoup Jessica, plusieurs béatitudes, et puis la semaine dernière, vous avez vu avec notre frère ancien Nicolas, ce texte qui plante un petit peu le décor après les béatitudes sur le positionnement que Jésus a par rapport à la loi et en même temps l'exigence qu'il place pour nous à avoir une façon de vivre qui stipule nos standards de vie au-delà de ceux des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire comprendre réellement quel est le sens, la profondeur de la loi. Et ici, Jésus va nous donner six exemples dans lesquels il va répéter la même expression. Six exemples pour nous montrer ce qu'est la mentalité du royaume, ce qu'est la vie dans le royaume. Et on va en prendre un seul, mais vous connaissez le contenu de ces six exemples. D'une part, il va nous parler de la colère et des conflits, comment gérer la colère, comment gérer les conflits, comment gérer aussi la fidélité conjugale, comment gérer nos engagements, parce qu'on s'engage, mais pourquoi pas aller engager corps? Est-ce que tu es un homme de parole? Est-ce que tu es une femme de parole? Et aussi gérer cette question du dépassement de l'esprit de vengeance de l'informale, pour continuer à aimer malgré tout. Et c'est quoi? Quel amour que le citoyen du royaume doit dégager? Vous avez ici tout ça, et il parle aussi de sexualité ici, du verset 27 au verset 30. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Et dans chacun de ces exemples, Jésus va être radical sur chacun de ces sujets. Et il le dit avec cette formule. Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis que. Et il le dit six fois. En gros, Zotandi est même moins dans la disote. Zotandi est même moins dans la disote. Il est parfois bon, n'est-ce pas, de retourner à la source. Vous savez, moi, j'aime pas trop répéter les paroles qu'on m'a dites parce que j'ai toujours peur de les déformer. Et puis, naturellement, on déforme toujours les paroles qu'on entend. Donc, il vaut mieux retourner à la source. Je ne sais pas si, en vous occupant d'enfants, vous avez déjà essayé de jouer au téléphone arabe. Donc, on dit yo en parole, mais vous pouvez faire ça avec les adultes aussi. Hein. Mais à la fin, ça n'a pas ni à rien à ça où on dit là, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont déjà fait ce jeu. Mais imagine-toi, si tu vas à la mairie et que l'on te dit que ton dossier n'a pas été pris en compte et qu'en marchant dans la route, dans la rue du moins, tu vois le monsieur le maire dans la rue et qu'il t'assure que ton dossier va être pris en compte, qui est-ce que tu vas croire? Tu vas croire à monsieur le maire, n'est-ce pas? Il vaut mieux retourner à la source. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Vous avez vu ça la semaine dernière. Jésus ne remet pas en cause la loi dans ces six exemples, mais il en donne un sens plus profond. Il vaut mieux retourner à la source. Et c'est ce que les scribes et les pharisiens n'avaient pas bien compris. Et c'est ce qui fait du sermon sur la montagne quelque chose de véritablement radical. Et je le répète ici, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas fait le choix de lui appartenir, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, le sermon sur la montagne, c'est de la belle sagesse pour toi. Mais tu ne pourras pas l'accomplir dans ta vie. Alors dis à ton voisin, le citoyen du royaume est aussi radical. Amen. J'espère que tu penses et tu crois à cette parole profonde. Parce que le Seigneur a de nouveaux défis pour toi. Aujourd'hui sur le thème de la sexualité, mais sur beaucoup d'autres thèmes que nous allons voir encore dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui donc, ce texte nous parle de sexualité et il nous parle de désir sexuel. Alors c'est vrai surtout sur le versant négatif, mais il nous parle aussi de la façon radicale de le gérer. J'aimerais dire que le désir sexuel, c'est un don de Dieu à ne pas détourner. J'aimerais le dire ça comme ça. Et ça nous concerne tous, je le répète, ados, jeunes, adultes, célibataires, mariés, veuves, en fait tous concernés. Alors, si vous commencez à lire la Bible depuis la Genèse, vous n'allez pas arriver très loin que vous allez vous rendre compte qu'on aborde très rapidement le sujet de la sexualité. Et cela apparaît dès le chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 22, 25, il est dit, Genèse chapitre 2, verset 22, 25, il est dit, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Les amis, On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Vous avez vu la première réaction d'Adam lorsqu'il a vu sa femme pour la première fois? Oui, 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 oui. Messieurs, 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 messieurs. Maman, j'espère que tu restes émerveillé quand tu vois ta femme. Et je dis ça parce que je crois que dans le couple, il faut pouvoir garder toujours une forme de fantaisie. Alléluia. Ah. Il n'y a que France qui a dit amen. Hein? Il n'y a que lui qui est convaincu, visiblement, ici. Et je crois que c'est utile pour la vitalité du couple, chers frères et sœurs. Chercher la fantaisie. Toujours chercher à s'émerveiller l'un face à l'autre. Surtout quand il n'y a pas la feuille de vigne, on va le dire ça comme ça hein, ce matin. Et puis, la Bible dit bien que mari et femme étaient nus et qu'il n'y avait pas de honte. Parce qu'il n'y avait aucune raison de l'être avant que le péché puisse apparaître. C'était la liberté l'un vis-à-vis de l'autre. Et j'aimerais te dire que si tu es ok dans ta relation avec Dieu, si tu as une bonne relation avec Dieu, cela t'amène à avoir normalement une bonne relation dans ton couple. Sans culpabilité, sans honte. C'est quand le péché est apparu que tout a été dégagé. Permettez-moi de le dire ainsi. Parce que Dieu a créé le sexe pour l'homme et pour la femme. Marié, pour qu'il puisse en jouir dans le nom de Jésus. Amen. Et au commencement, le désir sexuel était plus qu'une pulsion, était plus qu'une envie, était plus qu'une excitation physiologique. Le désir sexuel représentait un tout, un ensemble dans lequel il y avait de l'attirance, dans lequel il y avait de l'excitation, il y avait le fait de chercher l'autre, le fait d'attendre l'autre, le fait de séduire l'autre, le fait d'être avec l'autre, mais aussi pour bénir l'autre, c'est-à-dire pour lui faire du bien et aussi pour le servir. Et tout cela passait aussi par le plaisir de la personne qui apporte ça. Mais de toute façon, c'est réciproque dans le couple. Mais tout ça pour vous dire que c'était un ensemble. Tout était ensemble. Expression de liberté, expression d'amour, connexion, unité dans son ensemble. Mais aujourd'hui, parce que le péché est apparu, c'est pour beaucoup... Parfois, la sexualité est entachée de souffrance. Ou tout simplement, le désir est comme qui dirait étouffé à travers de différentes situations. Pour d'autres, ce sont des souvenirs de honte ou de déception, de colère et même parfois d'abus. Aujourd'hui, dans la sexualité, il n'y a plus de liberté. Si on ne sait pas la vivre comme le Seigneur le veut. Aujourd'hui, le désir sexuel n'est plus, comment dire, ça devient différent que le désir de l'union intime avec quelqu'un qui dure dans le temps. Le désir sexuel devient comme quelque chose de ponctuel, avec un coup de soin. La sexualité a été détournée du projet de Dieu. Et même, j'ai parlé tout à l'heure d'excitation physiologique, c'est-à-dire que c'est le corps qui est excité. Ce n'est pas non plus la même chose que le désir sexuel. Parce que vous savez qu'une femme peut être excitée de façon physiologique sans pour autant avoir du désir sexuel. Ce que je veux vous dire jusqu'ici, c'est que tout a été découpé à cause du péché. Nous sommes devenus comme des êtres divisés. Alors que au début, tout était en unité. La sexualité n'était pas vue que sur le point de vue de la génitalité, mais était un ensemble dans lequel, comment dire, le couple se construisait. Nous vivons dans un monde qui a travesti le projet de Dieu pour la sexualité. Et je trouve que dans la prière d'Augustin, de Saint Augustin, si vous préférez, au IVe siècle. ici, est un illustre docteur de l'Église, évêque d'Hippone, et est considéré comme un des quatre pères de l'Église latine. Et je trouve que la prière qu'il a écrite à un moment donné est assez significative, vous l'avez ici, qui traduit bien le malaise vécu au sein de la sexualité, surtout pour quelqu'un qui veut chercher Dieu, mais c'est vrai que pendant un temps, avant qu'il donne pleinement sa vie à Dieu, il s'est laissé entraîner par ses pulsions sexuelles à vivre des relations sexuelles hors le mariage, et il va dire, et là c'est quelqu'un qui est en chemin, hein, quelqu'un qui n'a pas encore donné pleinement sa vie au Seigneur, voilà ce qu'il va dire, je n'ai pas fait de latin, donc j'aurais du mal à dire cette phrase, mais la phrase en français donne-moi la chasteté et la continence, mais pas encore. Vous voyez la lutte intérieure de Saint-Augustin. Entre le fait que pour lui, il fallait s'en éloigner et en même temps, il en était attaché parce qu'il n'y avait pas une juste vision de ce qu'était la sexualité. Alors, on sait que aussi c'est dans cette période-là, en tout cas, où, pour commencer, enfin, en tout cas, nos amis catholiques se basent sur cette période de l'histoire de l'Église pour pouvoir affirmer le fait que, comment dire, les prêtres devraient être célibataires. Vous voyez toute la complexité que cela apporte. Donc, nous sommes divisés à cause du péché, de notre vision, de notre façon de voir la sexualité. Mais ô combien il est important que nous puissions recevoir la vision de Dieu et que nous puissions surtout la vivre. Et notre texte ce matin parle de convoitise. Et la convoitise, c'est désirer ce qui est défendu. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé sur vous, moi je vois ça souvent, qui vous regarde manger quelque chose qu'il ne peut pas manger, et qui désire tout simplement ce qui est défendu. Hein? N'est-ce pas? Ce texte ici parle de mauvais désir. Mais avant de parler de mauvais désirs, j'aimerais parler de ce que Dieu nous a donné et de la manière dont il nous a constitués, à savoir avec le bon désir. C'est ce qu'il a créé en nous. Le mauvais désir, on va le voir tout à l'heure, est auto-centré et cherche à nous envahir et cherche à nous rendre aussi vite. On va en parler dans quelques instants, mais essayons de nous concentrer sur ce que Dieu nous a donné. Voilà. Il y a trois bons désirs, on va le dire comme ça. Pour décrire quel est le bon désir, on va le décrire de trois façons possibles. Parce que Dieu a inventé le sexe et Dieu a créé le sexe avec trois buts. Premièrement, le désir d'une connexion durable. Ce n'est pas un bagage qui a duré un temps. C'est pour le plaisir entre une femme et son mari dans l'engagement des vœux du mariage. C'est tout simplement un homme et une femme engagés avec l'autre, envers l'autre, pour la vie. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Et on peut le dire comme ça et sans honte, le premier objectif de la sexualité, c'est le plaisir entre un homme et une femme. Et donc, il y a du jeu. On le voit très bien dans les cantiques des cantiques. Qu'il me baise les baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Il y a de l'attente, il y a de la joie, il y a de la patience, il y a de la tendresse, il y a une passion renouvelée, il y a de la douceur, il y a aussi une explosion de joie. Pas ici ce matin, visiblement, mais vous pouvez en dire amen. Et surtout pas de la routine. Autrement, ça devient comme une corvée. Dieu a inventé le sexe pour prendre soin de l'unité, de cette connexion durable entre mari et une épouse. Et cela contribue au lien qui unit mari et femme. Une connexion physique et intime qui, comment dire, on nous dit souvent on n'a pas besoin du mode d'emploi, mais j'aimerais dire qu'on a besoin d'apprendre à, comment dire, cultiver ce lien physique et intime pour que cela cultive aussi le mariage. Amen.
Donc, cette fois dans l'Écriture, il est dit, ils deviendront une seule chair. Vous savez que le sexe est l'expression physique d'une vérité spirituelle. J'aimerais le dire comme ça, faire l'amour devant Dieu, c'est sacré. Et c'est important. Ok? Parce que cela lie mari et femme d'une manière très exclusive. C'est toi, c'est moi, en tant que mari et femme, seul au monde, devant Dieu. Et on peut dire gloire à Dieu. Amen. Donc le premier désir désir sexuel dans la vie, on peut dire que c'est un désir de connexion durable. C'est pas un bagage qui date du lien de temps. Deuxième désir. Désir d'unité. Désir de partage. Alors, je disais tout à l'heure que la relation sexuelle est sacrée. Cela rapproche un mari, cela rapproche une femme, non seulement de manière physique, mais aussi avec, dans un lien émotionnel et spirituel. Ça, c'est dans un couple équilibré. Le sexe est bien plus qu'une question physique. Et c'est d'ailleurs pourquoi on s'en souvient. Si Yoka Born avait de l'eau, au moment où pas soif, toi, Zek a passé, ou pas qu'il songeait ça. Toi, moi, qui a passé, ou pas qu'il songeait ça. Mais malheureusement, on n'oublie jamais le sexe dans de mauvaises circonstances. Ça reste gravé. Même 20 ans, 40 ans plus tard, on peut garder, n'est-ce pas, de mauvais souvenirs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement un événement physique. Il y a un lien émotionnel et spirituel qui s'établit et qui laisse une partie de soi dans cette situation, dans ce qui a été vécu. Et on le sait dans la biologie humaine que, comment dire, lorsqu'il y a relation sexuelle, il y a ce qu'on appelle l'ocytocine qui est libérée lors de l'orgasme, d'accord, qui contribue à la confiance, à l'empathie, à la générosité, au lien conjugal, oui, c'est vrai. Mais nous croyons que spirituellement, il y a beaucoup plus que ça encore. Il y a un lien qui est en train de s'opérer. C'est pour ça que l'acte sexuel est réservé pour le mariage. Et que non seulement il est réservé pour le mariage, mais qu'il doit être cultivé dans le mariage, au fil des ans. Alors l'image que je donne, que j'ai peut-être déjà donnée ici, mais peut-être pas, je ne sais pas. C'est l'image d'une danse. Mais ai-je déjà donné cette image ici? Peut-être pas. En tout cas, je ne vois personne au chef de tête. C'est l'image d'une danse. Et dans la danse, il y a une musique. Et cette musique, parfois, le rythme est accéléré et parfois, le rythme est ralenti sur la musique. Eh bien, dites-vous que la vie sexuelle d'un couple, c'est aussi ça. C'est-à-dire que selon les périodes de vie, l'on va pouvoir changer de rythme. Et parfois, on s'y attend pas. C'est-à-dire, il y a un cavalier qui a vu que la musique a changé, et l'autre cavalier doit suivre, n'est-ce pas? Et parfois, il y a un petit temps d'adaptation, on peut se marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Je le dis parce qu'une fois, j'ai animé une session couple pour une église, et un frère a pu partager que oui, mais c'est pas facile quand on a un certain âge. Je dis, bien sûr, bien sûr. La danse, elle change, et on évolue. Mais on doit pouvoir continuer à cultiver ça pour garder le lien du couple. Amen. Ça fait partie du lien du couple. Donc, désir d'unité, désir de partage, et ce n'est pas simplement physique, mais émotionnel, spirituel et aussi intellectuel. Rappelez-vous, le péché est venu séparer tout ça, mais Dieu en fait un tout. Et le dernier désir, c'est désir d'enfant ou de projet nouveau. Si on s'unit, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Et le désir de procréation, nous le connaissons dans la Bible. La Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. Le seul commandement de Dieu qui a été appliqué à la lettre. Amen. La terre est remplie, n'est-ce pas? Je crois qu'on a fait un bon travail, nous les humains, n'est-ce pas? Ça a été fructueux. Le désir sexuel, donc, c'est le désir de s'unir à l'autre et à l'autre sexe dans une union fidèle, mais pour devenir un. Et moi, je le comprends, devenir une seule chair, c'est devenir un seul projet pour développer quelque chose. Et c'est, ça fait partie le fait d'avoir des enfants, développer des projets innovants pour faire du bien, notamment en faisant des enfants, mais pas que. Un couple, deux personnes qui s'aiment peuvent développer de nombreuses choses pour la gloire de Dieu. Comme Kouyoga dit en clair, connaissez Paul. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'aimerais dire qu'il en est de même, et c'est là où vous allez me regarder avec de grands yeux, mais il en est de même pour les célibataires. Vous pouvez me regarder avec de grands yeux, il n'y a pas de problème. Et je pense aussi aux jeunes qui aspirent à se marier. Vous savez, il y a un principe en psychologie qu'on appelle la sublimation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais je crois que, l'apôtre Paul en avait déjà parlé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que toute l'énergie sexuelle, parce que l'énergie sexuelle, ce n'est pas juste pour ceux qui sont mariés, hein. C'est tout le monde. Hein. Nos ados qui sont en train de grandir, nos jeunes qui sont en train de grandir, mais aussi les célibataires, n'est-ce pas? Et je pensais à ceux qui... les fleuves aussi, je pensais aussi à ceux qui sont passés par le divorce aussi. Mais toute cette énergie sexuelle, tout ce désir sexuel, tout comme il est utilisé dans un couple pour construire, pour bâtir, peut être utilisé en tant que célibataire pour créer, développer, construire, bâtir de bonnes choses. Les psychologues ont trouvé ça. Mais l'apôtre Paul l'avait déjà dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. C'est la sublimation. Amen. Alors bien sûr, cette sublimation n'est pas un long fleuve tranquille, sans difficulté. Et parfois il y a des luttes, et parfois on sublime parce que aussi on veut construire un couple. Et c'est un désir légitime pour tout célibataire. Ou toute personne qui se retrouve dans une situation compliquée dans laquelle il y a possibilité de se marier. Et Dieu veut accompagner cela. Mais parfois, ce n'est pas forcément un couple futur, mais la réalisation d'actions et d'œuvres. Il y a des endroits où il n'y a que les célibataires qui peuvent construire et bâtir, si c'est le projet que Dieu t'a donné, si c'est le projet que Dieu veut faire de toi. Qu'importe. Mais quoi qu'il arrive, l'énergie que le Seigneur nous a donnée à travers la sexualité doit être utilisée pour sa gloire. De quelque manière que ce soit. C'est bon? Je ne vous ai pas perdu, hein? D'accord. Le désir sexuel est une énergie qui peut se transformer en projets qui font avancer l'œuvre de Dieu. Le don de soi. Peut-être pour les plus désireux. Et quand on est en couple, il y a des choses à faire pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand on est seul, il y a des choses à faire pour la gloire de Dieu. Et le ministère d'un couple n'est pas forcément le ministère d'un célibataire. Mais tout est utile pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, en nous l'élever pour celle de Dieu. Amen. Vous voyez, je vous parle de sexualité, je vous parle de service du Seigneur. Tu vois, voyez comment avec le Seigneur, tout est lié. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et chacun selon le projet que Dieu a donné. Et tout ça, si vous le comprenez bien, c'est que c'est pour ne pas brûler. Parce que l'apôtre Paul parle de brûler, effectivement, pour ceux qui sont célibataires, mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas de projet de couple, donc lorsqu'on ne sait pas où aller, on peut brûler ailleurs, malheureusement. Hein? Alors que Dieu nous aide. Le sexe, donc, que Dieu a voulu, comporte ces trois dimensions. Désir de connexion durable, désir d'unité de partage, mais désir aussi d'enfants et de projets nouveaux, de projets innovants, de projets de développement. Alléluia! Alors, on parle du bon désir, mais on est obligé de parler du mauvais désir aussi. Parce que, alors, je n'ai pas commencé cette prédication en disant toute la décadence qu'il y a dans le monde à cause d'une mauvaise compréhension de la sexualité. J'ai voulu avant tout présenter le projet de Dieu. Mais on est obligé d'en parler parce que notre monde est bombardé par toutes sortes de mauvaises visions de la sexualité. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que le péché a tout bouleversé. Et on pourrait maintenant parler de ce qu'est le mauvais désir sexuel. Dans le texte, il est parlé de convoitise, et je veux parler de désir, mais il est aussi parlé de d'infidélité. Il est parlé d'adultère. Et il met l'accent pas seulement sur l'acte d'infidélité, mais sur le mauvais désir qui conduit à l'infidélité. Parce que, clairement, c'est trop facile de dire ça ne me concerne pas, mais pour autant, si l'on nourrit dans nos pensées les désirs d'infidélité, Dieu Jésus dit que c'est même pas grave. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un adultère? Qu'est-ce qu'un adultère? Alors moi, j'aimerais le définir avec trois mots, au moins. D'une part, c'est un vol. Deuxièmement, c'est une illusion. Et troisièmement, c'est une destruction. Un vol, une illusion et une destruction. Et en étudiant un petit peu le passage et écrivant cette prédication, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, ce vol, cette illusion, cette destruction, et on le retrouve dans chaque péché sexuel d'une manière ou d'une autre. Et je vais vous expliquer comment. Que ce soit la fornication, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, les attouchements sexuels, ce qui est en soi une fornication, l'homosexualité, l'addiction à la pornographie, le voyeurisme, mais encore pire, le viol et l'inceste. Alors, voler, ça veut dire quoi, premièrement? C'est prendre ce qui ne nous appartient pas. Et ici, moi, je l'appelle comme étant le désir égocentré. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 16, « Et l'homme dominera sur toi. » Et on va le voir hein, dans les semaines qui viendront, comment analyser ce verset lorsqu'on va parler effectivement des ministères féminins ici, malheureusement, à cause d'une petite difficulté au niveau de ma voiture et tout, on n'a pas pu avoir cette rencontre jeudi soir, mais cela va être reporté, la date va vous être donnée. Donc ce verset, on y reviendra dessus. Mais ce verset, une des choses qu'on peut dire, c'est qu'il intervient après la chute. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme dominera sur toi, c'est après la chute. Comme pour dire que il y a eu comme un décalage, une désorientation, une destruction de ce que Dieu avait créé. Ici, l'homme dominera sur toi, dominer l'autre, pour, en fait, sa propre et unique satisfaction. C'est rabaisser l'autre, c'est considérer l'autre comme un objet pour la satisfaction de ses désirs. C'est prendre la femme d'un autre sans penser aux conséquences sur l'autre et sur sa famille. C'est, la présence aussi de la violence qu'il y a dans les vidéos porno. Vous savez que, souvent ceux qui deviennent addicts à la pornographie, regardent des images qui sont, qui représentent l'acte sexuel, mais progressivement, parce que le cerveau a été constitué comme ça, à force d'être en surexcitation, ça ne suffit plus et les personnes vont aller regarder des images qui sont de plus en plus hard, comme on dit. Et malheureusement, ils s'habituent à ça progressivement. C'est la présence de la violence dans la pornographie, mais aussi dans l'acte sexuel, que l'homme dominera sur toi. C'est aussi la femme qui accepte d'être un objet sexuel pour l'autre, comme pour satisfaire le désir égocentré de son partenaire. Parce que si elle ne le fait pas, elle croit qu'elle ne recevra pas de l'amour de lui. Et là, on est en plein dans la dépendance affective. C'est terrible, ça, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela amène une perversité dans les relations hommes-femmes parce que ça a tout déséquilibré. C'est une distorsion de ce que Dieu a prévu parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 27, l'homme et la femme sont créés tous deux à l'image de Dieu. Et il n'y a pas de notion de domination l'un sur l'autre. Ils sont présentés comme hommes et femmes égaux devant Dieu. Dans une relation, le côte à côte, ça veut dire ça, dans une relation réciproque. Et il n'y a pas de domination. Et j'aimerais dire, jeune fille, si tu aimes un garçon qui te fait souffrir, arrête là. Jeune homme, si tu aimes
une fille qui te fait souffrir, pas arrêter là. Fuis. Si ça commence comme ça, ça va mal terminer. Le premier mauvais désir sexuel, donc c'est le désir égocentré. Le deuxième, c'est le désir envahissant. J'ai parlé tout à l'heure d'illusion. C'est-à-dire, on se trompe dans les péchés sexuels. C'est un désir qui vient, c'est vrai, on l'a dit, dominer sur quelqu'un, mais aussi lui faire croire qu'il va pouvoir atteindre le bonheur en le pratiquant, comme une sorte d'extase. Et on en a parlé tout à l'heure dans l'addiction à la pornographie, ça fonctionne comme ça. Et on peut se laisser entraîner loin. Un célibataire chrétien peut se laisser entraîner plus loin qu'il veut si il fréquente de façon trop proche des incroyants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Deux chrétiens non mariés peuvent se laisser entraîner plus loin si ils n'ont pas un minimum de vigilance. La Bible dit, s'il manque d'incontinence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ici, le désir envahissant, c'est cela. C'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'enchaînement, c'est une forme d'addiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus capable de décider, de dire non, ça va bon, moins pas les pour moi. Vous savez, je connais des personnes qui ont perdu des années de leur vie. Des années de leur vie à cause d'un désir envahissant. Au niveau de la sexualité, qui ont cassé beaucoup de choses autour d'eux à cause d'un désir envahissant. Le désir envahissant fait croire que le sexe est au centre de nos vies et à certains moments nous rend aveugles et cause beaucoup de dégâts. Des vies spirituelles brisées, des couples brisés, des familles brisées. Et parfois, ce n'est pas toujours évident de rattraper les années perdues. Le désir que Dieu a créé, il n'est pas envahissant, il est puissant, il faut le dire. Le désir sexuel tel que Dieu l'a créé, il est puissant, il est même entraînant, et il est même parfois impétueux, oui. Et le cantique, les cantiques le disent bien quand vous regardez le rêve de la Sulamite. Dans Cantique chapitre 1, si je ne me trompe, ben oui, chapitre 3, excusez-moi, verset 1 à 4. Cantique chapitre 3, verset 1 à 4, il est dit, on peut le lire ce matin. Hein? Jeune convié? Ça va? Ok. Sur ma couche, pendant la nuit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me leverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Cantique chapitre 3, verset 1 à 4. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et regardez ce qu'elle dit. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Le désir sexuel est quelque chose de puissant. Mais regardez bien que c'est orienté et même maîtrisé vers celui ou celle qui partage ou qui partagera votre vie. Amen. Parce que Cantique des Cantiques même le dit, parce qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant qu'il... Parce que ça va plus loin. Hein? Donc ça veut bien dire que toute cette énergie doit être orientée vers le bon sens pour qu'elle puisse construire, bâtir. On a vu tout à l'heure que le premier mauvais désir sexuel, c'est un désir égocentré. Le deuxième mauvais désir sexuel, c'est un désir envahissant parce qu'il y a une forme de dilution. Et le dernier, c'est un désir stérile. C'est-à-dire qu'il ne produit rien, tu peux passer. Qui ne produit rien, qui est juste vide, qui produit juste de la solitude. La Bible dit dans Proverbes chapitre 5, versets 8 et 10, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur aux autres et tes années à un homme cruel. » Verset 10, « De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. »
Ici, il est parlé à l'homme de dire attention, ne va pas vers la femme corrompue. Mais il s'agit de la mauvaise sexualité, tout simplement. Ça peut prendre toute l'argent ou pas qu'elle avancer, ça peut détruire. Le désir sexuel mal orienté, infidélité, relation au mariage, addiction à la pornographie, etc., nous fait perdre non seulement du temps et de l'énergie, mais ça nous détruit à petit feu. Vivre hors du plan de Dieu en matière de sexualité, c'est détruire sa vie à petit feu, c'est se fermer des portes, c'est s'empêcher de trouver une direction dans sa vie. Alors ne détournons pas le désir que Dieu a mis en nous. On a dit tout à l'heure, désir d'une connexion durable, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Désir de l'unité et du partage, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Désir aussi de procréation, mais aussi de développement, de projets nouveaux, c'est ce que Dieu a prévu pour nous avec l'énergie qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse nous éclairer. J'aimerais juste donner quelques éléments sur la façon de gérer ce désir sexuel, parce que la Bible est assez claire. Au verset 29 et 30 du texte d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Il est dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la chair. » Vous avez vu les trois verbes assez radicaux que Jésus donne ici. Il dit arracher, jeter et couper. Il n'y a pas plus radical que ça, n'est-ce pas? Et j'aimerais te dire qu'il y a trois façons de faire. Trois façons de faire au arracher, jeter et couper. La première chose, c'est que c'est ça ou pas pensé, c'est ça ou pas fait. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent... En gros, fais attention à ce que tu penses, parce que ta vie est façonnée par ce que tu penses. Contrôle ce que tu penses, fais attention. Je me rappelle très bien que l'universitaire chrétien que vous connaissez certainement, qui s'appelle Fola, c'est-à-dire Steve Gannett, avait dit une fois, dans une rencontre de jeunes, il parlait de la tentation sexuelle, la nécessité d'avoir un regard rebondissant, un regard qui fait boum. À savoir, tu vois quelque chose qui attire tes yeux, boum, tu passes à autre chose. Fais attention à ce qui nourrit tes pensées. Et laisse le Seigneur vraiment te conduire. Et en fait, vous savez, on ne peut pas maîtriser ce qui peut nous attirer, mais on peut maîtriser ce qui vient après. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui nous attire, mais c'est ce qu'on va en faire après qui est important. Donc, première chose, gérer ses pensées. Deuxième chose, c'est de limiter les possibilités. Limiter les possibilités de tentation. Vous savez, certains d'entre nous pensent, oh, il y a des chrétiens qui sont faibles, hein. Et c'est pourquoi les chutes, hein, mais moi, ça va pas arriver moins. Ça va pas arriver moins. Mais tu peux avoir pendant des années, avoir bien fonctionné, et puis un jour, malheureusement, tu chutes. C'est bien pour ça que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, le dit clairement, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. En fait, nous devons apprendre. C'est-à-dire, c'est notre logique en tant que chrétien, c'est être de plus en plus fort, de plus en plus compétent, spirituellement. On l'a vu, hein, des fois, ces derniers jours, hein, que je sois à la tête et non la queue. Mais quand je l'observe, bien, un chrétien doit connaître ses limites pour laisser Dieu être Dieu. Un chrétien doit connaître sa vulnérabilité pour aller chercher Dieu. C'est beau d'être fort, d'être compétent et de toujours vouloir y arriver au-dessus. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Et ici, précisément, on doit connaître nos faiblesses. Et nos faiblesses, c'est quel que soit l'âge que l'on a. Reconnaître sa vulnérabilité. Reconnaître qu'il y a des situations qui peuvent nous exposer à la tentation. Et surtout, bien choisir ses amis. Savoir si nos amis nous amènent dans la bonne direction. Donc, gérer ses pensées, limiter les possibilités de tentation, et puis dernièrement, troisièmement, regarder à la loupe les tristes conséquences. Et je le dis différemment ici, ne jamais oublier les tristes conséquences du péché sexuel. C'est-à-dire être conscient des conséquences du péché. Si vous voulez un bon antidote pour arrêter net toute tentation, prenez un temps. Réfléchissez, si je cède à cela, qu'est-ce que je perds? Pensez aux conséquences. Lorsqu'on est tenté, on ne pense pas clairement notre... On est embrouillé, n'est-ce pas? Lorsqu'on est tenté, on pense au plaisir du moment, à la pulsion du moment, au désir du moment, oubliant tout ce qu'on risque de perdre. La confiance du conjoint, la relation avec Dieu, notre unité familiale, faiblesse. Et on peut perdre gros, très gros. Prenons un temps et réfléchissons. Si je cède, qu'est-ce que je perds? Quelle destruction cette tentation sexuelle va provoquer dans ma vie? Et vous savez, on imagine pas combien un péché sexuel peut détruire, nuire, blesser notre esprit, notre âme, nos émotions, nos relations, notre avenir, notre passé, nos souvenirs. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent les cicatrices restent. Et la honte aussi a tendance à persister. Le sentiment d'avoir perdu quelque chose aussi. Alors nous croyons à la rédemption, nous croyons, mais pensons quand on n'a pas encore... pensons à cela. Vous savez, en tant que pasteur, parfois j'entends, mais si j'avais pu, si j'avais su, si je savais. Vous savez, si on parle de cela ce matin, c'est que c'est quelque chose de particulièrement important. Et on peut penser à l'histoire de... On n'oublie pas, n'est-ce pas, l'histoire d'Ésaü, qui est pour un plat de lentilles. Un plein de lentilles a renoncé à tout son héritage familial. Et parfois, on en est là avec le péché sexuel. Que le Seigneur nous accorde de garder notre héritage. Je veux penser à toi, ado, jeune, célibataire, veuf, divorcé, marié. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience et à grandir en sainteté dans ce domaine. Et parfois, il y a de la souffrance, de la douleur. Et je crois que dans l'Église du Seigneur, toute souffrance, toute douleur devrait être entendue, écoutée et accompagnée. Afin que aucun d'entre nous ne puisse se priver de la grâce et se retrouver face à un précipice du péché. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Le texte que nous avons vu ce matin est un texte qui parle de désir. Nous avons cherché à comprendre quel était le bon désir. Nous avons identifié quel était le mauvais désir. Et le Seigneur nous a dit comment faire face à ce mauvais désir. Que le Seigneur nous accorde de vivre la beauté de la sexualité, quelle que soit notre situation, et de grandir avec. Il y a des luttes, il y a des combats, oui. Mais ô combien nous devons poursuivre par la puissance de la grâce le projet du Seigneur pour nos vies. En tant qu'hommes et femmes mariés, pour continuer à construire le couple. En tant que célibataires, solobataires, pour pouvoir continuer à réorienter toute l'énergie que nous avons pour faire du bien. Et compter sur la grâce de Dieu pour ce qu'il a prévu pour nous demain. En tant qu'ado et jeune, pour construire et bâtir notre vie avec le Seigneur. Et faire les bons choix. Je n'ai de cesse de le dire. Le Seigneur m'a permis très tôt de faire les bons choix. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a accompagné
J'ai eu des luttes, des combats, c'est vrai. Mais c'était pour le service du Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vécues. Il y a des choses avec lesquelles je n'ai pas alourdi ma vie avec. Et je bénis Dieu. Alors que chacun de nous, là où nous nous trouvons, nous puissions avancer. Seigneur, je voudrais qu'on puisse parler de sexualité ce matin. Qu'il puisse trouver nos cœurs prêts et disposés à avancer aussi dans ce domaine. Louange et gloire te soient rendues, Seigneur. Merci pour tout ce que tu avais à nous dire et merci de ce que tu nous permets de grandir dans chaque domaine de nos vies. Dans le nom de Jésus.